Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Michel Serra.
Il est agrégé de lettres, a été commissaire général adjoint des Scouts de France de 1970 à 1976. Aujourd'hui, membre honoraire, avec lui nous évoquerons la promesse scout et ce qu'elle dit de ceux ou ces mouvements aujourd'hui. Il s'agit de la deuxième étape dans cette semaine entièrement imaginée autour du mot promesse et ça commence.
Devant tout, je m'engage...
Sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Il y a 6 couplets, vous les voulez ?
Puisqu'il est cette semaine question de promesses évoquant le serment d'Abdelaziz Bouteflika, élu le 17 avril dernier aux élections présidentielles algériennes avec 81,53% des voix et pour un quatrième mandat. Il prêtait hier serment en répétant d'une voix, paraît-il faible, les 94 mots qui le composent. Dans la photographie que reproduit en petit le journal Le Parisien ce matin et qui se trouve fortuitement mais très ironiquement accolée à une publicité géante vantant les idées lumineuses de réduction de prix de l'électricité. Sur cette photo donc, ce n'est pas la voix chevrotante qui choque, car on ne l'entend pas, ni le fauteuil roulant, car on ne le voit pas. Ce qui choque, ce sont les yeux, ahuris, comme apeurés, totalement dans le vide, ronds autant qu'incrédules, d'un président déjà fantôme. Vous écoutez France Culture, il est 16h passé de 1 minute et c'est pas la peine de crier. Sur le Polaroid apparaît un enfant et un parking. Sur le plateau du milieu vers 16h20, le deuxième moment d'une semaine entièrement imaginée donc autour du mot promesse. Après avoir évoqué hier l'éternelle promesse non tenue du droit de vote aux étrangers pour les élections locales, nous évoquons aujourd'hui la promesse scout et ce qu'elle révèle de ce mouvement et de son histoire. Vers 16h50, ce sont les sonnets de Shakespeare que nous écoutons cette semaine dans la très belle traduction de Frédéric Boyer. Ensuite, il sera 17h et nous serons rejoints par les équipes du 5 à 7. Ici, l'exercice du déballage de bibliothèques est donné chaque semaine à quelqu'un de différent. Cette semaine, c'est Violaine Schwartz. Elle lit aujourd'hui un extrait du Passage des heures de Fernando Pessoa. On l'écoute.
Sentir tout de toutes les manières. Avoir toutes les opinions. Être sincère en se contredisant à chaque minute. Se déplaire à soi-même pour sa pleine libéralité d'esprit et aimer les choses à l'égal de Dieu. Moi qui suis plus le frère d'un arbre que d'un ouvrier. Moi qui ressens plus la douleur supposée de la mère qui vient battre la plage que la douleur réelle des enfants que l'on bat. Ah, comme cela doit être faux, pauvres enfants que l'on bat. Et pourquoi donc mes sensations se retournent-elles si vite? Moi, enfin, qui suis un dialogue continuel. Un parler à voix haute, incompréhensible, au cœur de la nuit dans le beffroi, quand les cloches oscillent vaguement, sans qu'une main les touche, et qu'on est bien peiné de savoir qu'il y a de la vie à vivre demain. Moi, enfin, littéralement moi, et moi, métaphoriquement aussi. Moi, le poète sensationniste, envoyé du hasard auprès des lois irrépréhensibles de la vie. Moi, le fumeur de cigarettes, par profession appropriée. L'individu qui fume de l'opium, qui prend de l'absinthe, mais qui, somme toute, préfère penser à fumer de l'opium plutôt que d'en fumer, et trouve plus digne de lui de regarder l'absinthe à boire que de la boire. Moi, ce dégénéré et supérieur, sans archives dans son âme, sans personnalité estimée en valeur déclarée. Moi, l'inspecteur solennel des choses futiles, qui serait capable d'aller vivre en Sibérie, rien que pour en être excédé, et qui ne trouve rien de mal à ne pas attacher d'importance à la patrie, parce que je n'ai pas, comme un arbre, de racines, et que donc je n'ai pas de racines. Moi qui si souvent me sens aussi réel qu'une métaphore, qu'une phrase écrite par un malade dans le livre de la jeune fille qu'il a trouvé sur la terrasse, ou une partie d'échecs sur le pont d'un transatlantique. Moi, la nourrice qui pousse les pérambulateurs dans tous les jardins publics. Moi, le policier qui la regarde, à l'arrêt, en retrait, dans l'allée. Moi, l'enfant dans la voiture, qui salue son inconscience lucide en agitant son serpent à sonnette. Moi, le paysage en arrière de tout cela, la paix citadine filtrée à travers les arbres du jardin public. Moi, ce qui les attend tous à la maison. Moi, ce qu'ils trouvent dans la rue. Moi, ce qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes. Moi, cette chose à quoi tu penses et qui t'imprime ce sourire. Moi, le contradictoire, le fictif, le baragouin, l'écume, l'affiche fraîchement posée, les hanches de la française, le regard du prêtre, l'endroit où se rencontrent les deux rues et où les chauffeurs dorment, appuyés aux voitures, la cicatrice du sergent qui fait la gueule, la crasse au col du répétiteur malade qui rentre chez lui, la tasse qui était celle où le tout petit qui est mort buvait encore et dont l'anse était bréchée. Et tout cela prend place dans un cœur de mère et le remplit. Moi, la dictée de français de la toute petite qui tripote l'élastique de ses chaussettes. Moi, les pieds qui se touchent par-dessous le bridge, sous le lustre. Moi, la lettre cachée, la chaleur du foulard. Le balcon avec sa fenêtre entrouverte. Le porche de service où la servante parle avec les désirs du cousin, ce salaud de José qui a promis de venir et qui n'est pas venu et dire qu'on avait un bon tour à lui faire. Moi, tout cela, et en plus de cela, le reste du monde.
Violaine Schwartz, c'est un extrait du Passage des heures que Fernando Pessoa écrit sous l'hétéronyme Alvaro de Campos, un texte que vous connaissez un peu, ça sent d'ailleurs. Vous circulez là-dedans comme lui-même semble circuler à l'intérieur de toutes ces identités qu'il emprunte. Comment vous découvrez ce texte ?
En fait, je l'avais lu très jeune, peut-être quand j'étais peut-être à 20 ans. J'avais adoré ce texte. Bon, il est beaucoup plus long, hein. J'ai lu un petit extrait. Et puis...
Comment vous tombez dessus à 20 ans avant de dire « et puis » ?
C'est pas, c'est à l'époque où il est sorti, je pense. Hein. Peut-être on a sorti parce que on a trouvé toutes sortes de textes de Pessoa dans une malle, et ensuite c'est sorti en France, ça a été traduit peut-être dans les années 80, je crois, que c'est comme ça. Et oui, ça devait être publié, être comme ça. Je suis tombée là-dessus. Et ensuite je l'ai monté en fait, dans une mise en scène de Pierre Beau. On l'a fait aux Subsistances à Lyon, le Passage des heures en entier avec. Une musique de Dominique Pifarelli. Donc voilà, il y avait donc trois instruments à cordes, un violon, une contrebasse, un alto, et puis deux voix, Pierre Beau et moi. C'est un texte qui est encore, c'est un brouillon. Enfin, c'est-à-dire il y a des trous, il y a des phrases pas finies. Selon les éditions, les choses sont pas dans le même ordre parce qu'on a retrouvé tout en vrac dans une malle. Et ce qui permettait aussi, ça laisse aussi de la place pour la musique. Donc Dominique Pifarelli avait composé une musique, il y avait aussi des passages improvisés, voilà. Moi j'aime bien les brouillons.
Pourquoi ?
Parce qu'on voit un peu la trace de l'écriture, quoi. J'avais fait aussi un spectacle, un monologue, mis en scène par Pierre Beau aussi, sur les brouillons de Francis Ponge, à travers un texte magnifique qui s'appelle « Comment une figue de parole et pourquoi ?» qui est 8 ans de brouillons autour du poème « La figue sèche ». C'est comme un journal de la création, quoi. Bon, alors Pessoa, c'est pas... Bon, il y a beaucoup moins de brouillons, mais malgré tout, il y a des... On sent l'écriture en train de se faire, de tâtonner. J'aime bien. J'aime bien aussi... J'avais pensé, puis finalement, j'ai pas pris ça, mais j'aime bien aussi les fragments narratifs de Kafka. Dans la Pléiade, il y a des tout petits 4 phrases comme ça, des débuts d'histoire qui sont pas finis. Et moi, ça me fait... Je sais pas, j'aime bien. Ça me fait rêver. J'imagine des suites. Je sais pas, ça me donne envie d'écrire. J'aime bien.
Quelle musique vous voulez associer à ce texte ?
Après ce texte, je pensais que ça serait bien de mettre Juliette. C'est un peu le même sujet. La chanson s'appelle « Rime féminine ».
Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin. Anaïs Nin ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel. Vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Bulliolidée. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïs Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. De suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, aux lames de bouge, aux alas rouges, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Compariotis, ou les Duchess Angela et Bette Davis. Du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Boccia Lucrèce. Enfin, j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredecher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette, nous.
Demain, Violaine Schwartz poursuit le déballage de sa bibliothèque en lisant cette fois un extrait d'Espèce d'espace de Georges Perec. En attendant, nous vous confions le soin de faire apparaître l'image. C'est le Polaroid. Depuis, les talons lui poussent un haricot géant, feuillu, bordélique, aux virages contenus et noueux, qui passe par ses articulations encore si souples, ses muscles encore si demandeurs d'efforts. Le haricot grandit comme dans le conte et lui sortent de grandes pousses de joie par les oreilles, derrière le crâne, en même temps que des cheveux blonds ébouriffés. Il court après l'oiseau. Saute entre les lignes blanches peintes au sol qui quadrillent le bitume depuis la sortie du supermarché vitré et ouvre la pente pour des caddies pressés vers le parking où des centaines de voitures rôtissent au soleil. Il a inventé un chant qui rythme ses bonds. Il est un rouge-gorge amoureux d'un bord de mur, un corps d'enfant sur lequel le temps refuse de peser. Le pacte est précis et risqué. Il laisse sa mère faire les courses seule et plus efficacement que s'il se greffait à sa cuisse, et en contrepartie, promet de ne quitter cette portion de trottoir large sous aucun prétexte, dans aucune compagnie, y compris si ce qu'il s'était trouvé pour jeu entreprenait de dévaler le parking jusqu'au bord de la route. Il promet de ne pas bouger. Le haricot de la voix pousse dans cet enfant, qui n'y prend pas garde car il a trouvé son jeu. Sa mère peut errer des heures durant entre la farine et les œufs. Il lui semblera toujours qu'elle s'est absentée 2 secondes courtes et sèches. Elle la priera de lui laisser encore du temps pour finir. À ses godillots gris sont cousus des ressorts d'espoir solides en métal clinquant, mais on ne les voit pas.
Stand in the twilight zone, yeah, all alone in the twilight zone. I say, please.
Pour ce Polaroid, Miss Chanel vous faisait entendre le titre « Do Come Home » de The Legendary Tiger Man. Polaroid qui s'inspirait librement, comme hier, d'une image de Robert Adams, exposée en ce moment au musée du Jeu de Paume à Paris, et au centre social Attiéké, non loin d'ici, à Saint-Denis, dont il fut question lors d'une précédente émission, débute à partir de lundi prochain 5 mai un festival. Vous le prenez comme vous voulez, ou bien pour un soutien à ce lieu occupé qui œuvre pour une vie décente de plusieurs dizaines de personnes et une refonte, une réinvention du rapport à la ville, et ou pour la découverte de plusieurs films documentaires. Nous détaillerons le programme sur le site internet de notre émission sur franceculture.fr. En attendant, prenez date pour une promenade à Saint-Denis entre le 5 et le 12 mai prochain. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, c'est la deuxième partie de notre émission et le deuxième moment d'une semaine entièrement imaginée à partir de, autour du mot promesse. Hier, l'on évoquait le cas d'une promesse électorale éternellement non tenue, le vote accordé aux étrangers hors Union européenne en France faisant l'objet de prises de position pendant les campagnes par différents candidats depuis 30 ans, sans suite. Aujourd'hui, il s'agit d'une toute autre promesse dont il est délicat d'affirmer qu'elle est ou non tenue et devant qui elle est faite. À l'été 1907, l'anglais Baden-Powell fonde le scoutisme par un premier camp de jeunes gens sur l'île de Brownsea. Accueil, désintéressement, amour du prochain, mesure, fraternité, mais aussi formation du citoyen dans le rapport à la nature sont au cœur du pari d'une autre vie que ce monsieur tente dans le temps de quelques jours d'été avec 22 garçons, toute origine sociale confondue. Plus de 100 ans après, l'on compte 40 millions de scouts dans le monde et 1 million d'anciens scouts, guides, éclaireuses et éclaireurs en France. Selon les mouvements et les moments de vie auxquels sont prononcées la fameuse promesse scout, elle s'énonce de manière différente. À qui est faite cette promesse? Au nom de quelle loi? Et que dit-elle dans sa formulation du mouvement du scoutisme en France? Michel Serra, vous êtes agrégé de lettres, vous avez été commissaire général adjoint des scouts de France de 1970 à 1976. Vous êtes toujours investi à titre bénévole dans le mouvement en tant que membre honoraire. Ces dernières années, vous avez contribué aux différentes étapes de rénovation pédagogique du mouvement et vous êtes l'auteur de 100 ans de scoutisme paru en 2007 aux presses d'Île-de-France ainsi que de Baden-Powell aujourd'hui paru aussi aux presses d'Île-de-France. Bonjour,
bonjour
et bienvenue.
Paris. 25 000 scouts célèbrent le 25e anniversaire de leur organisation et acclament Lord Baden-Powell, créateur et chef mondial du scoutisme.
Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres.
Michel Serra, j'ai un petit doute sur la date parce que Baden-Powell parle de 25 ans d'anniversaire du scoutisme.
Oui,
moi,
oui.
Je pensais que c'était une archive de 1936. Bref, on est à la fin des années 30, oui. au début des années 40, normalement 1936.
Oui, voilà. On
entend la voix de Baden-Powell. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Oui, il ne parlait pas très très bien français, mais enfin quand même, il a
pris la parole en français
oui,
devant la foule.
Je crois que c'est une personnalité qui est mal connue en France, parce que, je ne sais pas, on a une espèce de snobisme, on voit le vieux bonhomme avec ses culottes courtes et son chapeau, et on se dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de vieux farfelu. Alors, c'est une personnalité très très attachante. Il a d'abord fait du scoutisme enfant, c'est-à-dire qu'il est parmi les derniers d'une grande fratrie. Son père avait eu... On était à sa troisième femme, enfin, il a été deux fois veuf. Et il était pasteur et il était professeur à Oxford. Et en plus de ça, son père était très non-conformiste, puisqu'il était un adepte de l'évolutionnisme. Alors évidemment, c'était pas forcément très bien vu. Et Baden-Powell perd son père, toute la famille perd le père quand Baden-Powell a 3 ans. Donc il a été élevé à la fois par sa mère et par des grands frères. Et je crois que cette idée du grand frère qui entrait entraîne à faire autre chose que ce que par ailleurs la famille fait faire ou le père fait faire, est une des clés qui lui a permis d'imaginer le scoutisme. Ensuite, c'est pas des études très brillantes parce qu'il est très farceur, il dessine très bien, il joue toutes sortes d'instruments de musique, il fait du théâtre, il préfère aller se promener dans les bois que de faire des études, mais enfin bon, quand même, c'est pas brillant. Et à 19 ans, il est accepté dans une école d'officiers, parce qu'à Oxford, dans le jury, il y a un type qui trouve qu'il a trop d'imagination, et c'est Lewis Carroll, ce qui ne manque pas de sel d'imaginer que Lewis Carroll trouve que Ben Poe a trop d'imagination. Donc, vous savez, ça vous donne une idée. Donc voilà, alors le voilà officier, élève officier, et ce qui l'intéresse dans ce travail, c'est comment on va former les hommes. Et comme il est dans la cavalerie, aussi, comment on va former les chevaux. Et d'ailleurs, pour gagner de l'argent, parce que sa maman est en veuve et avec il faut qu'elle demande beaucoup de sous à ses enfants, hein, quand même, objectivement, eh bien, il achète des chevaux qu'ils n'ont pas très beaux, pas très bons, pas très forts. Il les dresse, il les élève, il les soigne, il les nourrit, et il les revend deux fois plus cher. Ça, c'est comme ça que le jeune homme découvre, je crois, une partie des choses. En plus, comme officier de l'armée britannique, évidemment, il est allé plusieurs fois en Afrique, plusieurs fois en Inde. Il a été en Afghanistan avec la dernière défaite des Anglais en Afghanistan. Il fait donc une carrière militaire pas banale quand même. Hein. On se méfie un peu de cet officier pas très ordinaire. Hein, voilà. Et si bien qu'à un certain moment, on lui confie essentiellement la formation des hommes. Et c'est là qu'il a l'idée de l'équipe. Il dit, il faut pas entraîner les individus tout seuls. Ils font jamais la guerre tout seuls. Ils font toujours la guerre avec d'autres. Il y a cette idée de l'équipe, cette idée d'un entraînement progressif aussi en faisant confiance aux gens. Voilà. Donc ça c'est très important. Et alors quand il a réussi cette formation, il leur donne un petit brevet, une petite fleur de lys. Parce que c'est ce qui indique le nord sur les boussoles, donc un soldat, ça connaît les cartes, et sur ce petit truc, il y a ces initiales, BP. Et tout le monde a interprété ça en « be prepared », soit prêt. Être prêt à quoi ? Être prêt à vivre en humain dans ce monde. Hein, voilà. Bon. À partir de là, chaque fois qu'il rentre à Londres, il constate que dans ce monde hyper industrialisé qui se développe et qui se commence à se mondialiser sérieusement. On n'est pas les premiers de la globalisation. Il constate que les enfants n'ont pas finalement l'éducation qui leur permet d'entrer dans ce monde. Et c'est ça qui va le fasciner et le passionner. À chaque retour à Londres, il regarde les gosses. Et c'est un de ses grands principes. Et je voudrais le dire à tous les éducateurs du monde, hein, comme lui. Ask the boy. Observe l'enfant. Regarde comment il vit. Quels sont ses besoins, mais aussi quelles sont ses forces. Et peut-être qu'il est un des premiers éducateurs, avec d'autres évidemment, en même temps que lui, à prendre l'enfant pour une personne et pas comme un petit dôme qu'il faut faire grandir. Vous savez, on habillait les enfants comme les grands avant, hein, on leur mettait des cravates à l'âge de 2 ans. Mais là, il dit, ben voilà, l'enfant est une personne, il faut le prendre comme tel, il a ses qualités, il a ses défauts, il a ses aptitudes. Comment on va faire pour développer le plus grand nombre de ses aptitudes pour qu'il soit pleinement homme dans ce monde et puis un bon citoyen, voilà. Donc il va interroger beaucoup d'éducateurs américains, anglais. Il a des conversations et des correspondances avec Maria Montessori. Enfin voilà, il ne sait pas du tout. Il n'a pas sorti le scouting de son chapeau un beau jour. Et quand même, il a 50 ans. Il commence à avoir un peu de la bouteille. Il a du temps dans lui. Et il se dit, je vais essayer et mettre au point une méthode d'éducation qui va, j'espère, marcher.
Est-ce qu'il passe des officiers aux enfants ? C'est-à-dire que vous avez dit, il revient à Londres, il voit ses enfants, voilà. Il voit les jeunes générations qui ne sont pas éduquées selon lui.
Faut quand même reconnaître que le travail des enfants l'Angleterre industrielle de la fin du 19e siècle, où le sort des enfants n'était pas terrible. Lui, il appartenait à la gentry, il avait été élevé dans des bonnes écoles, mais il constate aussi qu'il y a des gosses à la rue, qui fument, qu'ils ont des propos salaces, etc. Donc ça le choque quand même. Il dit, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir continuer à grandir en humanité. Donc c'est ça. Alors il va travailler beaucoup, hein. Il s'isole pendant plusieurs semaines dans une maison de ce qu'on lui prête, et il va essayer de mettre au point ce fameux camp de Bouncy. Tout détaillé, hein. Tout écrit, les bivouacs tous les jours, etc., de façon à voir comment ça marche. Et puis il demande à ses amis, faites-moi un panel d'enfants particulièrement différents, d'origine, de formation, de culture, etc., de façon à ce que je vois si ça marche.
Mais sans cadre, au début, ça ne s'appuie ni sur l'école, ni sur l'église, sur quoi que ce soit, ça sans cadre.
Je crois que c'est ça qui est important aussi. Je crois qu'il a compris Je voudrais pas choquer nos auditeurs, mais l'enfant s'appartient aussi à lui-même. Hein. Il appartient pas qu'aux institutions.
J'espère que vous les choquez pas beaucoup, nos auditeurs, en disant ça.
Non, mais il y a eu tout un débat, vous savez, ces jours-ci, sur quelqu'un qui a dit que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents. Les enfants sont prêtés à leurs parents, ils sont prêtés à l'école. Mais c'est leur destin qui compte. Hein. C'est leur vie qui se développe. Et ce qu'ils seront, ils le doivent à eux-mêmes. Bon, je veux dire. Bon, enfin, bref, on fait faire. Je crois que ça, c'est une conscience qu'il a, Baden-Powell. Hein. Et pour ça qu'il va donc mettre en place. Dans ce camp de Brownsea. D'abord, il fait appel à... Il faut comprendre que camper avec des enfants au 19e siècle, enfin, au tout début du 20e, c'est pas banal, personne ne le fait. On ne fait pas du camping à ce moment-là. Il est obligé de faire appel à l'armée, ce qui n'est pas très difficile. Il est officier supérieur, il a ce qu'il faut, mais enfin, il faut bien qu'il ait une cuisine de campagne pour faire manger tout son monde. Enfin, on ne sait pas faire tout ça, il n'y a pas de base. Quoi. Bon. Alors, il s'habille comme il avait habillé les forces en Afrique. Bon, voilà, et puis... Il a réussi très vite, et je crois que c'est ça qui a fait que ça a pris, cet équilibre extrêmement subtil entre le réalisme et l'imaginaire. C'est-à-dire, le réalisme, il dit à l'enfant, bah, si tu veux manger, tu fais la cuisine. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, on apprend. On sait pas. Ben on apprend. Hein. Si tu mets les pâtes sans dans l'eau froide, tu verras qu'elles seront pas bonnes à manger. C'est donc immédiatement la prise en main par l'enfant, les jeunes, les adolescents et puis les jeunes adultes, de leur propre façon de vivre. C'est-à-dire qu'ils sont pas assistés. Ils sont pas. On les aide, bien sûr. Bon. Et puis. La dimension de l'imaginaire qui est très importante, c'est pour ça que ça s'appelle Scout. Hein. Il le dit d'ailleurs très bien. Si j'avais appelé ça Société d'éducation morale des enfants, j'aurais pas eu grand monde. Mais à partir du moment où je place le scout, le pionnier, l'homme des bois, cet imaginaire qui est encore très fort dans la pensée des enfants de cette époque, quand même on est en plein quand même colonialisme, etc. Donc il va mêler ces deux choses et il va faire vivre cet imaginaire à travers ce dont il pense que c'est une des meilleures manières d'éduquer les enfants, c'est-à-dire le jeu. Voilà. Pour lui, il a observé, nous l'avons tous observé, les enfants, ils progressent en jouant. Hein, et ils commencent à empiler les trucs, puis ça tombe, et puis on recommence, et puis l'enfant, il jette son hocher par-dessus le berceau pour voir si on le ramasse ou pas. Enfin, c'est ça qui éduque. Et Baden-Powell va faire développer ce jeu spontané des enfants, l'intensifier, l'organiser et faire en sorte qu'il soit un meilleur moyen de développement. Il faut dire que quand il a fait Brownsea, il était un héros national parce que les Anglais avaient une sale affaire dans la guerre des Boers, c'est-à-dire en Afrique du Sud, contre les anciens occupants hollandais. Et ils étaient assiégés à Mafeking par les Boers. Et ce siège avait duré plusieurs centaines de 200 ou 300, autour de 200 jours, je peux me souvenir exactement, enfin, peu importe, c'était ce temps-là. Et puis tout le monde attendait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Anglais vont faire une sortie, se libérer ou pas? Et Ben Powell était là au milieu, c'était lui le chef de ces trucs. Et alors il a bluffé, et il a utilisé les enfants pour bluffer, c'est-à-dire il leur a fait fabriquer des faux canons, des faux projecteurs, donner l'impression à l'ennemi qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Il envoyait des gamins tirer de la
paille. Je ne vous suis pas. Là, on est dans le camp de Brownsea ou on est dans la vraie guerre.
Et tout d'un coup, Mafeking est libéré, les Boers s'en vont et Mafeking est libéré. Et on est en 1900. Là, hein, bon. Donc ce jour-là, il est devenu un héros national. Donc il est, quand il lance le scoutisme, il est connu. Hein, c'est pas, c'est même un privilège d'avoir été à ce camp-là. Et il a été pris en main très vite par un grand éditeur anglais, qui était aussi un grand tourneur. Si on peut dire, c'est faire les tournées, c'est celui qui avait fait faire la tournée de Sarah Bernhardt aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il connaissait son boulot. Donc il prend Baden-Powell en main, il dit ce héros national, il faut que ça. Et ça va l'aider beaucoup, Baden-Powell. Dès qu'il revient de Brownsea, il publie ses bivouacs, ce qu'il appelle des bivouacs dans le Times. Il publie, voilà, premier bivouac, on a fait ci, on a fait ça. Et c'est une traînée de poudre. C'est une traînée de poudre dans des mouvements de jeunesse existant déjà. Hein. Faut pas... Il y avait déjà des Boys Brigades, il y avait déjà les missions chrétiennes de jeunes gens. Enfin, il y avait des structures qui, tout d'un coup, vont découvrir à la fois cet imaginaire et le fait qu'on peut prendre en main sa façon de vivre.
Est-ce que la promesse existe déjà dans ces publications-là,
Ce qui est, au départ, il y a la loi. Et Van Poel dit que voilà. Et là, il montre bien son côté révolutionnaire en éducation. C'est-à-dire pour lui, la loi, c'est pas des interdictions, c'est au contraire des situations positives. Il le dit d'ailleurs. Je j'invente rien. C'est des propos qu'il tient. Il dit c'est des attitudes positives qu'on propose aux enfants. Voilà. Alors c'est être économe, être loyal, respecter la nature. Voilà. Bon. Être fraternel, rendre service. Bon. Voilà. Mais c'est être. C'est pas ne fais pas, c'est soi. Hein, vous voyez, c'est tout à fait intéressant, ça. Bon. Et un jour, il y a un gars qui est un petit garçon. Il recevait des lettres tous les jours, hein, de gamins qui lui écrivaient. On écrivait Baden-Powell et ça arrivait, mon ami. Bien. Et il y a un gamin qui lui dit « Je vous promets, monsieur, que je vais faire ça, comme vous me le dites sur votre loi. » Et alors là, il a une illumination, il le raconte lui-même. Il dit « Ce petit gars, il m'a montré qu'on pouvait demander à chaque scout de promettre d'observer cette loi scout et de le promettre d'âge en âge. » Voilà. Alors, bon, la promesse, elle est simple, hein, c'est pas du tout... C'est sur l'honneur. Hein, c'est sur mon honneur, je promets. C'est très important parce que Ben Powell a constaté que les enfants, ils aiment pas caler. Enfin, nous non plus, d'ailleurs. Mais enfin, on préfère avoir à gagner, quand même. Bon. Donc, c'est le sens de l'honneur, c'est très important pour lui. Je promets de faire de mon mieux. Ah, ça, c'est très important aussi.
Ça veut dire quoi exactement, sur l'honneur?
C'est-à-dire, ben voilà, si je le fais pas, les autres vont s'en rendre compte, et puis je vais en prendre plein la figure. Hein, c'est pas... C'est ça l'idée. C'est pas, il faut pas non plus, c'est pas l'honneur chevaleresque, je sais pas quoi. C'est le fait que si je cale.
C'est une parole,
les autres,
quoi.
Les autres sont. Hein,
voilà, c'est une parole.
C'est une parole que je prononce devant les autres et qui vont me dire attends, là tu as dit que tu étais loyal et tu nous as raconté des cracks. Donc il y a trois grandes étapes dans la promesse. Il promet d'être un. De servir, alors selon les religions, Dieu, l'Église, ou enfin en tout cas toujours la patrie, hein, toujours le service de la nation, c'est très...
Ça c'est dans la promesse, à la fois l'Église et à la fois la nation.
Je vais vous lire le texte fondateur, si vous voulez, parce que peut-être après tout, le mieux c'est encore de...
Parce que c'est important, c'est pas tout à fait la même chose de dire je vais respecter une loi selon laquelle je me dois d'être fraternel, je me dois de tenir ma parole, je me dois, par exemple, je me dois d'être souriant, alors, je me dois
ça,
d'être en rapport avec la nature...
C'est comme le maître étalon du pavillon Bretagne.
Et de dire, pardon, et de dire, je dois défendre ma patrie, je dois allégeance à la patrie ou je dois allégeance à l'Église. On passe un cap qui est tout de même assez différent, non? Et c'est contenu dans une même loi.
Ah oui. Oui, mais bon. Bon, pour Baden-Powell, on est au début du 19e, du 20e siècle. Il est citoyen d'une monarchie dont le roi est chef de l'Église. C'est un bon chrétien. Je veux dire, bon, pour lui.
Forcément, il y a ça. Quoi.
Oui, ça pose pas de problème. Et ça a posé problème à partir des années 70, où il y a eu des grands débats sur le fameux duty to God, hein, croire en Dieu. Bon.
C'est pas un détail anodin,
ça. Non, c'est pas un détail anodin. Ce que je crois très fort, et il le dit plusieurs fois d'ailleurs, hein, il est revenu là-dessus plusieurs fois, parce qu'on lui a posé la question. Il a quand même fondé le scoutisme, il a 50 ans, et il meurt, il en a 80, donc je veux dire, on lui a posé beaucoup toutes ces questions-là. Il dit, moi ce qui m'intéresse, c'est que celui qui a un esprit religieux ne se contente pas d'aimer Dieu, mais de faire ce qu'il faut faire si on aime Dieu. C'est-à-dire, il le dit d'ailleurs, je préfère les prières d'action que les prières du cœur. Aimer Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose pour un enfant, il dit. Mais par contre, faire une bonne action tous les jours pour rendre service à quelqu'un, alors ça veut lui dire quelque chose. C'est une pédagogie de l'action, le scoutisme. Hein, c'est toujours dans le faire que ça se passe. C'est pour ça qu'il dit, sur mon honneur, je promets de faire de mon mieux. Moi, je voudrais juste dire deux mots là-dessus, parce que on a beaucoup durci le scoutisme, hein, surtout dans certaines périodes. Hein. C'est faire de son mieux. Pour Baden-Powell, il ne s'agit pas de demander à l'impossible aux enfants, mais il s'agit de leur
quand
demander...
Quand vous dites on l'a beaucoup durci, c'est-à-dire dans la représentation qu'on s'en faisait ou dans les faits
espèce de... Oui, il y a même eu des périodes... Voilà, c'était dur. Et Baden-Powell a réglé le compte à ça. Hein, parce qu'il y a, un 11e article à la loi scout, il dit « Le scout n'est pas un imbécile ». Le 11e, c'est lui qui le dit. Hein, le scout n'est pas un imbécile. Et pour illustrer ça, il raconte l'histoire de voir un jour, il voit un groupe de scouts en uniforme, impeccable, tout ce qu'il faut, le foulard et tout, et pas d'imperméable. Et il pleuvait énormément. Et alors, il s'approche d'eux, mais je ne pouvais pas mettre un imperméable.
Couvrez-vous.
Pourquoi vous ne couvrez pas? Enfin, c'est idiot, votre truc. Alors le chef lui répond, ah mais nous on s'entraîne. Et alors il lui dit, bah oui, il faudrait quand même avoir l'esprit un peu plus ouvert quand même. Puis s'entraîner, c'est se couvrir quand il pleut, parce que lorsqu'ils sont tous malades, vos gamins, ça ne sera pas terrible. Ouais. Mais c'est ça aussi, hein, je veux dire, il fait de son mieux. Bon, quand même. Alors, de faire de mon mieux pour faire mon devoir envers... Alors, faire mon devoir, il ne s'agit pas d'aimer Dieu ou d'aimer sa patrie. Il s'agit de faire ce qu'on fait si on est citoyen de telle patrie ou si on est croyant de telle religion. Hein. Faire mon devoir envers. Hein. Pour deuxième aspect de la loi, c'est pour aider les autres en tout moment. C'est-à-dire, c'est toujours la dimension du service. C'est-à-dire, ce qui fait grandir en humanité, c'est de rendre service aux autres. C'est ça qui rend heureux. Et d'obéir à la loi scout, évidemment, c'est le troisième point. Alors, c'est pour ça qu'il y a les fameux trois doigts du salut scout. Hein, vous savez, il y a trois doigts parce qu'il y a trois étapes dans la promesse. Hein, le faire de son mieux par rapport à son groupe. J'allais dire culturel, hein, église, patrie, etc., par rapport à l'autre qui est mon frère absolu, total, toujours. Hein. Le scoutisme, dit Ben Poel, c'est une fraternité universelle de service. Et ben, on a les trois choses, et puis d'obéir à la loi scout.
Ouais. Je m'appelle Camille, c'était en 1996.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 15 ans. Et ce que j'ai employé comme mot, c'était grandir, savoir écouter les autres, se rapprocher des autres, leur faire confiance, savoir les respecter. C'est à peu près ça.
Moi, je m'appelle Aude, j'ai fait ma promesse en même temps que Camille. Pour moi, on a l'esprit scout ou on ne l'a pas. Donc la promesse, c'est pour dire un petit peu... je pense l'avoir.
Moi, je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans. J'ai fait ma promesse l'année dernière, donc j'avais aussi 14 ans. C'était ma première année l'année dernière. Et les termes que j'ai employés, c'était se fixer un but par rapport à soi-même.
Michel Serra, on entend ici des adolescents. C'est un extrait d'un lieu de mémoire diffusé en 1997 qui reviennent sur la formulation de leur promesse. Et ce qui m'intéresse dans ce qu'ils disent, c'est j'ai choisi ce terme, j'ai utilisé ce mot. Quand on vous entendait à l'instant revenir sur les textes fondateurs de Baden-Powell et des premières promesses, on a du mal à imaginer que ce sont des promesses qui ont pu se formuler autrement. Or, en écoutant ces adolescents, on se dit qu'ils l'ont fait avec leurs mots.
Oui, oui. Oui, parce que la promesse et la loi, hein, c'est un instrument pédagogique. C'est pas un rite sacré. C'est pas de promettre. Oui, c'est un rite important dans la vie de l'enfant et de l'adolescent et du jeune homme, de la jeune femme. De s'engager, de dire je vais être un peu plus servir ce monde pour qu'il soit un peu plus humain, plus fraternel, etc. Mais Ben Poel lui-même n'était pas, fixiste sur les mots. Et il est évident qu'on ne va pas... les langues transforment, que les cultures évoluent, etc. Ça a été un grand débat, d'ailleurs. Il y a aussi des mouvements de scoutisme. Il y en a beaucoup en France, vous savez, contrairement à ce qu'on croit. Hein, il y a la Fédération du scoutisme français qui regroupe les 5 mouvements officiels, si je puis dire, reconnus par le Bureau mondial, mais il y a 90 mouvements, parce que le scoutisme, ça marche. Alors, il est quelquefois très instrumentalisé. On veut dire, ça marche, je vais faire une troupe scout pour qu'elle soit, je sais pas quoi, moi.
Donc, ça n'est pas dogmatique, en fait. Ce n'est pas rendre...
Non, c'est tout sauf dogmatique, Baden Powell.
Mais je veux dire, cette promesse-là, en tant qu'elle peut être reformulée par chacun des enfants...
Normalement, quand même, le cadre de l'association doit aider l'enfant à dire ces mots, mais à les dire dans ces trois valeurs qui sont l'engagement vis-à-vis de son monde et de sa société, l'engagement vis-à-vis des autres et l'engagement vis-à-vis de la règle de vie qu'on se donne. Parce que même la loi, elle a été formulée, reformulée, transformée, retraduite. Elle n'est pas la même chez les éclaireurs de France, en France par exemple, chez les scouts guides de France, où elle a été retraduite par le Percevin qui a ajouté peut-être un peu plus de religion, si je puis dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le scoutisme, c'est une méthode éducative. C'est pas une collection de rites pour entrer dans une société secrète. La promesse, c'est pas ça. La promesse, c'est de dire à un enfant, ben voilà, t'as un peu vécu avec nous, t'as vu comment que ça marche, tu sais de quoi, sur quoi on se fonde, hein, entre nous, et tu vas mettre tes projets ensemble, et ben, bon, est-ce que tu t'engages avec nous? Et oui, je veux bien m'engager avec vous. Et
alors, ça
il va
passe
le faire
comment
l'ouvre-tôt, il va le faire plus tard, il va le faire jusqu'à à les adultes aussi, les jeunes cadres s'engagent, il y a des paroles d'engagement aussi pour les cadres.
Puisque vous parlez de rite, est-ce qu'il y a une mise en scène de cette promesse?
Oui,
à quel
peu,
moment
oui,
ça se passe?
Faut, pas trop, ni trop, ni trop peu.
C'est-à-dire
hein, il est très là aussi, très... C'est un type... Je ne sais pas, je voudrais transmettre un type très mesuré, plein d'humour, très drôle. Il ne se prend pas au sérieux. Bon. Alors il dit, il faut que ça soit bien fait. Hein. Il n'est pas pour que les parents y soient, d'ailleurs. Il dit, il ne faut pas, parce qu'autrement, après, ça fait du théâtre. Ce n'est pas assez sérieux pour l'enfant. Il dit. Donc, il faut que ça soit bien fait. Il y a un petit cérémonial, d'ailleurs, dans Éclaireur de Ben Powell. Il y a un petit cérémonial. Quelques questions. Est-ce que tu veux respecter la loi scout? Oui. Combien de temps? C'est peut-être toujours. Enfin, bon, là, il y a trois formules comme ça. Et puis, après, l'enfant, le jeune, le garçon, la fille prononce, le jeune homme, hein, prononce ses paroles d'engagement dans cette voie-là. Voilà. Et c'est d'âge en âge, parce que le scoutisme a très bien compris qu'il faut des rites de passage. On a envie de devenir scout quand on est louveteau, ou éclaireur, ou puis on a envie de devenir routier quand on est routier. Cette espèce d'appel à grandir est une des vertus quand même du scoutisme. C'est pour ça qu'il y a une promesse à chaque étape.
Quand vous le disiez, cette promesse est un peu plus clairement élargie à la notion du religieux et à une allégeance, vous disiez se soucier ou faire le mieux que l'on peut pour son univers culturel. Quand cet univers culturel il est très clairement religieux ou très clairement relié à Dieu, est-ce que c'est une étape qui est à rapprocher d'une communion, par exemple?
Et
là,
il
me semble qu'on
sort.
Il ne faut
pas sacraliser la promesse. Je ne crois pas. Enfin, personnellement, je ne sais pas.
C'est
vrai qu'il y a des périodes où on l'a beaucoup sacralisé, avec des veillées la nuit, le soir, tout ça. Enfin,
ça s'est fait.
Côté chevaleresque. Oui, ça s'est fait, bien sûr. Avec des torchères la nuit, enfin, je ne sais pas quoi. Je ne crois pas. Je ne crois pas que encore une fois, ce n'est pas une société secrète. Hein, ce n'est pas une franc-maçonnerie. Le scoutisme, au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir prononcer sa promesse. Et puis ben, voilà. Alors, bon, c'est vrai que. Vous savez, il y a beaucoup plus de scouts musulmans dans le monde que de scouts catholiques, par exemple. Hein, c'est évident. Ou même sans doute plus de scouts musulmans que de scouts chrétiens, dans quel que soit les christianismes. Donc là aussi, ça a dû s'adapter. Je pense que les mouvements mixtes, je ne sais pas s'il y a des mouvements mixtes dans les grandes sociétés musulmanes, je n'ai pas d'informations précises. Mais bon, voilà, l'accès à la mixité, par exemple, ça a été un grand débat dans le scoutisme. Et Baden Powell, je n'ai jamais été contre. Vous savez comment les filles sont rentrées dans le scoutisme? Vous voulez que je vous raconte ça, comment les filles sont rentrées dans le scoutisme?
Si c'est assez court comme récit, pourquoi
hein
pas?
Hein, vous voulez? Je vous raconte. Allez. En 1910, il réunit à Londres, dans ce fameux Crystal Palace, qui avait brûlé depuis, hein, qui était le grand caprice là, pour l'exposition universelle du début du siècle, il réunit à Crystal Palace tous les scouts de Londres, de la région londonienne, et il y a une foule. Ils sont plusieurs milliers, 10 000, 15 000. Et lui-même est un peu stupéfait, ça fait 3 ans, même pas, hein, qu'il a fait Brandsy et qu'il a commencé à publier ses fascicules. Ils sont tous là. Et puis, au premier rang, il y a des filles habillés comme des garçons.
Bah oui, pourquoi pas.
Bah ouais, voilà. Elle dit, on veut faire comme nos frères, il n'y a pas de raison, ils vont se marrer dans la nature, pourquoi nous, on n'irait pas? Et ça lui pose une sacrée question, parce qu'il n'était pas très... C'est pas qu'il était misogyne, mais enfin, il n'était pas très... Bon, alors il se retourne vers sa sœur, qui dit, bah écoute, je vais m'en occuper, moi, de tes filles, t'inquiète pas. Ouais, ce qu'il faut, et après, c'est sa femme qui s'est occupée, qui va développer le guidisme. Le guidisme a été quand même une source de croissance des femmes dans le monde extraordinaire. Il faut voir l'importance du guidisme dans les pays en développement, c'est admirable.
Mais justement, j'en reviens à ma question sur l'engagement, et sur le premier pilier de cet engagement. Est-ce que parfois, le fait de s'engager devant l'Église ou devant Dieu, si l'on connaît, quelle que soit la religion, certaines des restrictions par rapport à la mixité, par rapport à l'évolution des femmes dans certains pays, dans certaines religions, dans quelle mesure est-ce qu'il n'existe pas de tension entre une loi religieuse qui est restrictive, qui empêche, qui ne veut pas ce développement, qui ne veut pas cette mixité, qui ne veut pas l'épanouissement des femmes, et de l'autre côté, un mouvement éducatif qui, normalement, n'a qu'une envie, c'est l'épanouissement de tous. Dans quelle mesure cette tension est à l'œuvre et empêche le véritable projet pédagogique de se mettre en route?
Il y a des fois des situations, des conditions, des mouvements où je crois le côté, je vais dire intégriste, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire une rigidité religieuse va peut-être empêcher une partie du développement. Mais je sais pas comme ça que ça se passe, en fait. Hein, je veux dire,
jamais le projet pédagogique n'est entravé par la loi religieuse, entre guillemets, quelle que soit la religion.
Je ne sais pas.
Pas de votre expérience,
j'espère que
en
non.
Tout cas.
Je crois aussi que... Je vais prendre un exemple dans l'histoire des catholiques français. La grande réforme de structure que les scouts de France d'un côté et les guides de France de leur côté, c'est-à-dire les deux grands mouvements catholiques français, ont fait dans les années 60, et ils l'ont fait aussi parce qu'il y avait le Concile. Donc c'était en même temps une évolution de leur Église qui les a amenés à faire évoluer très vite leur propre mouvement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des dissidences et des gens qui ont dit oh, « ben non, nous on reste avant, hein, on ne veut pas de cet après-là ». Il y a tout le problème des âges aussi, il y a des différences sur les clivages d'âge, parce que c'est pas selon les cultures, il y a des enfants qui sont plus délurés dans certaines cultures que dans d'autres, dans certaines sociétés que dans d'autres, voilà. Et c'est quand, en France, par exemple, quand les collèges se sont créés, les scouts de France comme les guides de France ont relu Ben Powell. Chaque fois qu'ils veulent évoluer, c'est ce qu'ils font. Hein. Bon, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que j'ai contribué à... Bah, parce que chaque fois, ils m'appellent et puis ils me disent « Bon, nous, raconte-nous Ben Powell ». Donc voilà, ils ont relu Ben Powell, ils ont vu une phrase extraordinaire de Ben Powell qui dit « Ce qui est bon pour un enfant de 12 ans n'est peut-être pas bon pour un enfant de 14. » Et c'est vrai que tout d'un coup, on a vu naître la préadolescence dans nos sociétés, avec le collège, avec la puberté qui est de plus en plus jeune, enfin, etc. Donc les scouts et les guides ont, je pense, en France, parmi les premiers, découvert cette préadolescence et adapté une forme de scoutisme à la préadolescence, plus ludique, etc. Et en même temps, ils ont adapté à l'adolescence un scoutisme peut-être plus engagé, plus tourné vers le tiers-monde, les actions collectives, etc.
Vous vous souvenez de votre promesse, Michel Serra ?
Pas très bien, j'avoue, mais je m'en souviens. Mais c'était tout à fait à la Baden-Powell. C'est-à-dire, il y avait la troupe, on était dans un cadre de nature simple. Je sais pas, si vous voulez, j'ai pas fait ma promesse au Mont-Saint-Michel, je ne sais pas, voyez-vous. Ouais, souvent, ça marque parce que c'est ça. Et Baden-Powell dit, bon, il faut que ça soit bien fait, solennel, important. Ça compte pour l'enfant, puis ça compte pour les autres. Mais il ne s'engage pas tout seul. Hein. Quand un garçon fait sa promesse, il a ses copains derrière lui, il a son équipe. Le principe des patrouilles, c'est une des grandes inventions de Ben Powell, hein, la vie en équipe, qui permet de faire cette république d'enfants. Hein. C'est un terme qu'on emploie assez souvent pour parler du scoutisme, c'est un terme de Ben Powell. Alors pour un monarchiste, pas tellement monarchiste que ça, mais enfin si, forcément. C'est une république d'enfants, c'est-à-dire qu'il y a des conseils, il y a un conseil de travail, il y a l'Assemblée nationale, et puis il y a le Sénat aussi, où on va voir œuvre les grands principes ensemble, et réévaluer comment on a vécu. Mais alors quand le garçon s'engage, ou la fille s'engage, il a derrière lui, il a ses copains, son équipe, sa patrouille, qui sont là pour lui dire « Bon, non, on va te soutenir, hein, t'inquiète pas, mon vieux. Hein. »
Puis oui, ils sont garants de cette promesse aussi, j'imagine.
Pardon ?
Le groupe est garant de cette promesse, si on s'engage
devant
un groupe.
Tout le groupe est garant, oui, absolument. C'est pour ça qu'il y a ce que Ben Powell appelait la cour d'honneur, qui a été aussi interprétée de façon un peu, comment dire... idéologique. Mais la cour d'honneur, c'est justement, c'est un type, il a promis sur l'honneur un truc, mais il n'a pas fait. Bon, il va lui dire quand même. On va lui dire. Non, mon vieux, là, alors écoutez, franchement, là, tu as fait une bêtise. Bon, c'est pas plus que ça. Je veux dire, il ne faut pas non plus en faire le chapitre des moines. Hein.
Qu'est-ce que vous me dites ?
C'est ce que vous voulez.
C'est ce que je voulais, vous savez, moi j'ai jamais d'idée tellement préconçue de ce qui va arriver.
Ah non, alors.
Non, c'est vrai, pour de vrai. En tout cas, depuis lundi jusqu'à vendredi, nous piocherons dans les sonnets de William Shakespeare dans une traduction de Frédéric Boyer. Cette traduction est parue aux éditions POL et ils nous sont lus par Michel Villermoz de la Comédie Française. On l'écoute.
Quand je considère que tout ce qui grandit ne tient sa perfection qu'un bref instant, que sur cette immense scène, il n'y a rien à montrer que la secrète influence des astres. Quand je vois les hommes comme les plantes croître, être choyés et détruits par l'unique ciel, fortifiés dans leur sève, au sommet, décroître jusqu'à porter leur vie brave dans l'oubli, alors d'imaginer ce vain passage te montre à moi dans l'éclat de ta jeunesse. Le temps dévastateur rivalise avec la ruine, change le jour de ta jeunesse en nuit atroce. Je suis en guerre avec le temps pour toi, amour. Ce qu'il t'arrache, je le greffe sur toi, encore.
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô Père éternel.
Voilà, Michel Serra, un de vos vœux exaucés. C'est vous qui souhaitiez entendre
Brassens. C'est une merveille, parce que je trouve que c'est quand même la chanson qui dit le plus l'humanité, quoi. Et le scoutisme, c'est essayer de faire grandir en humanité le plus possible les humains. Quoi. C'est ça la question, hein. Que nous nous posons tous, parents, enfants, éducateurs, tout le monde. Comment être plus humain? Et là, c'est la leçon de Brassens, elle est inoubliable.
Merci beaucoup, beaucoup, Michel Serra, d'avoir été avec nous.
Merci
cet après-midi. 100 ans de scoutisme, c'est paru aux presses de l'Île-de-France. Un monde, une promesse, c'était un article paru dans la revue Études de mars 2007 et Baden-Powell aujourd'hui, puisqu'on en a beaucoup parlé. C'était aussi paru aux presses d'Île-de-France et vous me tendez Baden-Powell pas à pas, 1000 citations du fondateur du scoutisme aux éditions Presse d'Île-de-France. Pour écouter cette émission, franceculture.fr vous sera d'un parfait secours et tiendra ses promesses. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Pas la peine de créer ou bien Poème du jour ou bien Polaroid ou bien Je déballe ma bibliothèque ou bien tout ça. Et pour nous écrire, c'est le même site internet qui vous permet de le faire. Nous vous remercions pour tous vos mots. Aux manettes aujourd'hui, c'était Théo Gomard. Merci à Céline Geoffroy, Marie Placet et Béatrice Leca. Merci à Cyril Baer, Inès Duperron et Romain de Bec-de-Lièvre qui pensent et préparent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Miss Anne-Laure Chanel. On sera là demain, même heure, même signal, même radio, dans un instant, le 5 à 7.